midi à 13h30.
Midi première.
Fabienne Vandemersch.
Et après ce point indispensable sur la situation des réfugiés, nous allons parler à présent de l'Égypte. Alors je vous le disais, et vous l'avez entendu bien entendu ces derniers jours, la situation dans les stations balnéaires est très tendue étant donné le crash de l'avion russe. Toute une série de vols sont suspendus. Ces stations étaient encore jusqu'ici plus ou moins les seuls endroits à rester accessibles au grand public, alors que les grands sites culturels antiques sont désertés par les visiteurs pour des questions notamment de sécurité et principalement de sécurité. Et tout ceci intervient à un moment où sur le terrain, des recherches sont menées pour faire avancer encore la connaissance de l'Égypte ancienne. Alors on parle de caméras thermiques dans les pyramides, on parle d'un radar hyper puissant dans la tombe de Toutankhamon pour trouver la tombe de Néfertiti. Et alors il y a chez nous également, au musée du cinquantenaire, une magnifique exposition à voir absolument sur l'évolution des rites funéraires et les mystères des sarcophages. Nous allons en parler, bien entendu, de tous ces sujets. Si vous souhaitez poser des questions, des avis, n'hésitez pas, évidemment, à nous les faire partager dans ce forum. Et je vous présente tout de suite nos premiers invités. C'est Isabelle Terrasse qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes licenciée en archéologie, histoire de l'art. Vous êtes spécialisée sur l'Égypte, licenciée de l'UCL. Et vous êtes membre du service éducatif et culturel de ces musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles qu'on appelle, pour aller vite, le musée du cinquantenaire. Luc Delvaux est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur des collections de l'Égypte dynastique et gréco-romaine à ce même musée, à ces mêmes musées royaux d'art et d'histoire. Et c'est donc vous qui signez, si je puis dire, cette exposition qui s'appelle Sarcophage sous les étoiles de Nout. Alors on va en parler dans un instant, mais tout de suite, voilà, un commentaire sur Facebook. C'est Olivier qui dit, mais que peut-on encore apprendre d'important et d'essentiel de l'Égypte antique?
Je réponds.
Mais c'est bien, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on sait déjà tellement de choses que je faisais référence à des recherches, aux caméras qu'on va introduire dans les pyramides, dans la tombe de Toutankhamon et tout ça. Oui. Et c'est vrai que la question d'Olivier, même si elle peut vous étonner, est finalement assez logique.
Oui, mais l'Égypte, c'est quelque chose d'inépuisable. Hein. L'égyptologie, c'est vraiment inépuisable. Enfin, la vallée du Nil, c'est une bande de terrain extrêmement étroite sur laquelle se sont succédés pendant 3000 ans des milliers de générations qui ont produit des objets qui sont parfois des objets triviaux ou parfois des objets prestigieux. Ça, c'est un peu du milieu de auquel appartenaient ces gens. Mais donc, l'égyptologie, c'est une science qui est encore en devenir. On a juste effleuré la civilisation égyptienne pour l'instant. Moi, j'avais un professeur à l'ULB qui me disait toujours qu'on connaissait peut-être 1% de ce qu'il y avait à connaître sur la civilisation égyptienne. Mm-hmm. Ben, quelques dizaines d'années plus tard, on est peut-être à 1,5%, mais ça reste une aventure et il y a énormément de domaines qui sont toujours inexplorés.
Mmh. Isabelle Terrasse, oui, même avis, j'imagine.
Oui, absolument. Et je vais donner un petit exemple très concret lié à l'exposition Sarcophage, justement. Mmh. Nous présentons plusieurs cercueils d'animaux, et notamment de chats. Et ces dernières années, grâce à la technologie qui évolue et au scan, par exemple, qu'on a pu faire, sans abîmer les momies qui se trouvent à l'intérieur de ces cercueils, on a pu déterminer que, par exemple, ces chats étaient tués très jeunes, entre 2 et 4 mois. Et que finalement, les momies de chats, la plupart du temps, sont des ex-voto qu'on offrait dans les temples. C'était les pèlerins qui pouvaient les acheter, en quelque sorte, qui pouvaient se les procurer, et qui avaient donc des élevages, véritablement, de milliers de ces animaux autour des temples. C'était véritablement un commerce. Mm-hmm. Voilà une chose qu'on n'imaginait pas il y a 100 ans, mais ce sont les nouvelles technologies aussi qui nous permettent d'avoir des renseignements de plus en plus précis et d'affiner les connaissances qu'on a sur l'égyptologie.
Alors, c'est vrai qu'il y a des momies d'animaux dans l'exposition à laquelle on fait référence, Sarcophage sous les étoiles de Nout. Il y a aussi des momies d'anguilles.
Oui. Pas seulement d'anguilles, de scarabées, de lézards.
De scarabées,
de serpents.
Ah, oui,
mais c'était connu, ça, beaucoup par le grand public. On pensait les momies de chats, on en avait déjà entendu parler. Scarabées aussi, mais momies d'anguilles, des momies de poissons.
Il ne faut pas croire non plus qu'on faisait des momies de tous les animaux.
Non.
Mais tous ces animaux qu'on a momifiés, ce sont des animaux qui étaient liés à une divinité. Tout le monde connaît les dieux tels que Anubis, qui a une tête de chacal, par exemple, ou Thoth, qui a une tête d'ibis. Ou Horus qui a une tête de faucon. Donc on sait que le monde animal a toujours été très proche du monde divin dans l'Égypte ancienne. Et en fin de compte, on a momifié finalement des animaux uniquement dans un contexte religieux et rituel. Mm-hmm. Donc ce sont uniquement les animaux qui sont liés à des divinités qui ont été momifiés, et pas n'importe quel animal.
Alors, évidemment, on va parler de cette exposition et des recherches qui sont menées sur place. On aura tout à l'heure avec nous le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, mais qui sera à Louxor, Laurent Bavet, et qui nous donnera un petit peu la température aussi de ce qui se passe là-bas sur place. Est-ce que, et ma question va pouvoir vous sembler éventuellement un peu triviale, mais étant donné le fait qu'on est un peu coincé, empêché d'aller sur les grands sites culturels antiques de l'Égypte aujourd'hui, est-ce que vous constatez, par exemple, au musée du Cinquantenaire, une recrudescence, un engouement pour venir visiter justement les salles égyptiennes, les expositions? Il y a du monde à cette exposition sous oui. les étoiles de Nout, où on se dit, voilà, c'est notre seule possibilité pour l'instant d'être en contact.
Je suis pas sûr qu'il y ait une recrudescence du public dans l'exposition à cause de ça. Bon, d'abord, c'est pas non plus impossible d'aller visiter l'Égypte. C'est vrai que un peu dans l'inconscient des voyageurs aujourd'hui, c'est un endroit qui est moins sûr qu'avant. Mais il faut pas non plus, je pense, exagérer les problèmes. Il y a dans les grands centres touristiques égyptiens, je pense qu'il y a vraiment moyen de voyager, de visiter les monuments sans encourir de risques personnels vraiment exagérés. Bon, l'engouement pour l'Égypte chez nous, il est permanent. Et je crois que les expositions sur l'Égypte, en général, ont du succès. Maintenant, ici, je pense que le succès de l'exposition, il est dû plutôt au thème qui a été choisi, qui est un thème vraiment spécifique et qui est très clairement associé à l'Égypte ancienne, un peu dans l'inconscient collectif. Ce sont les thèmes de la survie, la momification, des sarcophages, etc. Voilà.
Je rajouterais juste quelque chose, c'est que je pense aussi que les gens sont de plus en plus attirés par l'événementiel. Et que donc une exposition comme celle-ci, en plus avec nos collections,
c'est l'occasion
en fait de montrer la richesse de nos collections, mais d'une autre manière.
Exactement.
Et présentée aussi dans une scénographie qui est adaptée au scénario auquel on a réfléchi longuement. Donc je pense que les gens répondent aussi beaucoup parce qu'il y a un côté événement, il faut l'avoir vu, et c'est quelque chose qui ne va durer que quelques mois.
Voilà, et
après ça, c'est terminé.
Voilà, et ces pièces vont redisparaître après dans nos réserves. Et donc,
il n'y aura que quelques happy few qui pourront aller les regarder. Mais donc, pour l'instant, c'est une exposition que l'on peut voir au Cinquantenaire. On va en parler dans un instant, bien entendu. Ce sera après les titres du journal. Il est 12h33, nous allons continuer notre forum à propos de l'Égypte. L'Égypte évidemment au centre de toutes les attentions pour l'instant, pour des questions, on l'a bien dit, de sécurité, mais elle est aussi en pleine lumière sur le terrain des recherches qui sont menées pour faire avancer encore cette connaissance de l'Antiquité égyptienne. On parlera tout à l'heure les pyramides, des caméras thermiques, un radar dans la tombe de Toutankhamon, et puis chez nous, on l'a dit, cette exposition sarcophage sous les étoiles de Nout au Cinquantenaire. Et nous avons d'ailleurs avec nous les concepteurs de cette exposition, Luc Delvaux, conservateur des collections de l'Égypte dynastique et gréco-romaine, et Isabelle Terrasse, licenciée en archéologie et histoire de l'art, et qui est membre aussi de l'UCL, et qui est membre aussi du service éducatif et culturel. Donc ça vous occupez notamment aussi des stages, par exemple, pour les enfants. Et notamment,
stages, non.
Non, mais le service éducatif
et
culturel, il le fait.
Donc,
je sais que cette exposition, elle sera au centre de stages prochainement. Hein.
Absolument. Il y a déjà eu des stages cette semaine, d'ailleurs.
Voilà. Et Laurent Bavet est avec nous par téléphone depuis Louxor. Bonjour, monsieur Bavet.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'archéologie égyptienne à l'ULB et vous êtes le récent directeur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Alors, on parlait de la situation il y a quelques instants, c'était la situation sur place, et Luc Delvaux nous disait, bon, il y a quand même moyen d'aller visiter les grands sites antiques de l'Égypte. Ils sont manifestement quand même un peu désertés pour l'instant.
Alors, comme vous l'avez rappelé, je suis à Louxor en ce moment. La situation ici sur les sites est tout à fait calme, et c'est vrai que on attend le retour des touristes avec impatience depuis plusieurs années maintenant.
Alors, on disait tout à l'heure, finalement, l'Égypte et l'histoire égyptienne, l'Antiquité égyptienne, inépuisable d'enseignement. Il y a quelqu'un à qui vous allez pouvoir tous les trois un peu donner des cours. C'est ce candidat à la Maison Blanche qui vient de déclarer que c'était Joseph qui avait bâti les pyramides pour stocker des céréales, et il a eu cette phrase extraordinaire. Il a dit « Désormais, les archéologues pensent que les pyramides furent construites pour servir de tombeau aux pharaons, mais si on y pense bien, il a ajouté, ça voudrait dire que ces tombes étaient vraiment énormes. » Et donc, on se dit qu'il y a encore du chemin pour certains Ce qui est inquiétant, c'est que ce monsieur, il est neurochirurgien, il est éduqué, il a une formation, il est candidat à la présidence des États-Unis. Ça vous fait quoi? Ça vous fait rire, ça, ou ça vous fait un petit peu peur quand même?
Ça, oui, c'est les deux. C'est une espèce de révisionnisme archéologique comme ça, qui va souvent de pair avec un révisionnisme politique. Et donc, c'est absolument nauséabond et consternant.
Isabelle Terrasse, on le disait juste avant les titres du journal, l'exposition Sarcophage sous les étoiles de Nout, toutes les pièces exposées proviennent des réserves du musée. Beaucoup n'avaient jamais été montrées. Pourquoi? Par manque de place ou par décision éditoriale, mais je dirais, dans les vitrines.
Il faut savoir, et beaucoup de gens ne savent pas, que en fait, la collection d'art égyptien chez nous, elle compte 14 à 15 000 pièces. Il est évidemment impossible d'exposer 14 ou 15 000 pièces, rien que pour la collection d'Égypte. Il y a beaucoup d'autres collections dans notre musée. Donc, il y a une sélection, bien sûr, qui a été faite il y a longtemps, de 2500, 3000 pièces. Ce qui ne veut pas dire que dans les réserves, il n'y a pas donc énormément de pièces qui mérite d'être exposé. Et c'est justement là que, grâce à une exposition comme celle-là, on peut mettre en avant, justement, toute une série de pièces, pas la totalité des pièces, mais deux tiers des pièces, effectivement, de l'exposition n'ont jamais été exposées et ne le seront plus après la fin de l'exposition.
Cette exposition ne va pas tourner dans le monde ?
Non, elle ne va pas tourner parce que c'est une exposition qui expose des objets qui sont souvent trop fragiles pour circuler. Donc on peut les faire circuler à l'intérieur du musée sans trop de difficultés, mais de là à les exporter, malheureusement, ce ne sera pas possible, en tout cas dans la forme actuelle de l'exposition. En complément à ce que disait Isabelle, il faut savoir aussi que si tous ces objets des réserves n'ont jamais été exposés, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, c'est aussi souvent parce qu'ils ne sont pas en état physique d'être exposés au plan de la conservation. Tous les objets qui ont été placés aujourd'hui dans l'exposition ont subi un traitement dans nos services de restauration avant d'être exposés. Donc il y a un travail préparatoire qui est énorme, mais qui s'intègre aussi aujourd'hui à toute une série de programmes de recherche sur la collection égyptienne du musée, qui petit à petit permet de prendre conscience des trésors qu'on a et d'essayer de les valoriser.
Alors, on l'a dit, les Belges, et on le dit chaque fois qu'on fait des émissions sur l'Égypte, les Belges ont une vraie réputation importante dans le domaine de l'égyptologie, à la fois parce qu'on fait ici et puis parce que les Belges ont pu faire sur place et font encore sur place. Et Laurent Bavet, je rappelle, vous dirigez l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, vous êtes là à Louxor. Les Belges ont plusieurs grandes missions archéologiques et ils les ont eues de tout temps en réalité.
Oui, absolument. À l'échelle de la taille du pays qu'est la Belgique, on peut dire que sa présence en Égypte, sur le terrain en particulier, est tout à fait remarquable par rapport aux autres pays. On peut rappeler les missions de nos collègues de Marimont à Alexandrie, la mission de nos collègues de la KUL en Moyenne-Égypte, dans la région de Berchet. On peut rappeler, bien sûr, la mission du cinquantenaire qui travaille à El Cab, notre propre mission de l'ULB de Liège à Thèbes ici. Donc un nombre de missions qui est vraiment considérable et qui montre bien effectivement cette place tout à fait privilégiée de la Belgique dans le paysage de l'égyptologie mondiale et francophone en particulier.
Alors, vous qui êtes sur place, je suppose que ces derniers jours, à part évidemment les événements dramatiques qui sont ceux de Sharm el-Sheikh, mais ces derniers jours, au niveau de ce qui concerne les recherches archéologiques, et on ne parle que de ce radar que l'on a projeté d'introduire dans la tombe dans le tombeau de Toutankhamon, et de ces trous qu'on va percer dans la pyramide de Khéops, ai-je lu, pour voir un petit peu où se trouveraient les chambres annexes. Je suppose que ça fait la grande actualité de vos confrères et de vos consoeurs sur place.
Complètement. Et puis ça montre l'ampleur des recherches qui restent encore à mener en Égypte. C'est un moment passionnant aussi pour nous parce que ce sont des nouveaux travaux. Prenons l'exemple que vous avez cité de la tombe de Toutankhamon. Vous le savez, on l'a largement relayé dans la presse, une nouvelle théorie envisage la présence de chambres inconnues dans cette tombe. C'est même passionnant de se dire que presque un siècle après la découverte de la tombe, qui est certainement la plus grande découverte archéologique du XXe siècle, il y a presque un siècle après cette découverte, il y a encore la possibilité de découvrir des chambres inconnues, recelant peut-être une partie encore du mobilier de la tombe de Toutankhamon. Et ces travaux sont menés en ce moment même, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, Au moment où je vous parle, le ministre des Antiquités, avec une équipe, travaille dans la tombe. Là, il s'agit d'une première phase de thermographie infrarouge qui va chercher à détecter des cavités, des espaces libres, vides, derrière les murs de cette tombe.
Alors, il faut dire que la technologie, et on va en parler aussi évidemment avec Luc Delvaux et Elisabeth Terrasse, parce que la technologie d'aujourd'hui permet évidemment toute une série d'avancées et de recherches que l'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore quelques années. En ce qui concerne Toutankhamon, d'abord avec vous, Laurent Bavet, en fait, la tombe de Toutankhamon, pour résumer les choses très très vite, elle avait tellement de succès et était tellement engorgée par les visiteurs qu'on a décidé d'en faire une réplique, un fac-similé, un peu comme on a fait à Lascaux. Et c'est grâce aux photos 3D qui ont été réalisées qu'un archéologue, un égyptologue anglais s'est dit qu'il voyait, alors que ce n'était pas visible à l'œil nu, des traces qui pouvaient être l'indice de cavité d'une chambre ou d'une tombe annexe. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu